Bonjour. Aujourd'hui, on explore une piste prometteuse contre l'inflammation, des sucres modifiés chimiquement.
Oui.
On va s'appuyer sur un article de recherche tout récent qui décrit la création et les tests de nouveaux composés, des analogues de disaccharides sulfatés et sulfonés.
C'est ça.
Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter comment d'infimes changements sur ces sucres peuvent influencer leur interaction avec deux acteurs clés de l'inflammation.
Le récepteur TLR4 et l'enzyme héparanase, exactement.
Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi certains sont plus prometteurs que d'autres.
Tout à fait. Alors, pour mettre un peu de contexte, TLR4, c'est un récepteur Toll-like, un récepteur très important du système immunitaire. Il détecte des signaux de danger qui viennent de microbes ou même de nos propres cellules quand elles sont endommagées. On parle de PAMPS et de DAMS.
D'accord.
Et l'héparanase, elle, c'est une enzyme. Son rôle, c'est de découper de longues chaînes de sucre à la surface des cellules, les héparanes sulfates.
Et ces fragments ?
Eh bien justement, ces fragments qui sont libérés, ce sont des DAMP et ils peuvent activer TLR4. Ce qui amplifie l'inflammation.
D'accord, je vois.
Donc l'idée derrière cette recherche, c'est de créer des molécules qui ressemblent à ces fragments, des sortes de leurres, pour pouvoir moduler cette réponse TLR4.
C'est une approche intéressante. Alors, allons-y. Les chercheurs sont partis de sucres assez courants, des disaccharides, maltose, cellulose, lactose.
Oui.
Et ils ont modifié de deux façons, soit en ajoutant des groupes sulfates, soit des groupes sulfonates. Pourquoi cette comparaison en particulier, sulfate versus sulfonate ?
Très bonne question. On sait que les groupes sulfates, naturellement présents, sont importants pour l'interaction avec TLR4. Mais leur synthèse chimique sur des sucres complexes, c'est... c'est un vrai défi technique.
Compliqué.
Très. Problème de sélectivité pour mettre le sulfate au bon endroit. Et puis, la purification est souvent difficile.
D'accord.
L'hypothèse, c'était que les sulfonates, qui sont chimiquement très proches, juste un atome d'oxygène en moins entre le soufre et le sucre, pourrait être plus simple à fabriquer.
Tout en gardant une activité intéressante, peut-être un peu différente.
Voilà. L'idée était d'explorer si cette petite différence chimique pouvait offrir un avantage en synthèse et comment elle affecterait l'interaction avec TLR4 et les paranases.
Mais apparemment, la synthèse des sulfonates n'a pas été si simple non plus, hein.
Ah non, effectivement. Ça a demandé pas mal de travail. Ils ont testé deux stratégies principales.
Oui.
La première, une substitution directe sur un dérivé tosylé avec du sulfite de sodium. Elle n'a vraiment bien marché que pour le dérivé du cellobioside. C'est ce qui a donné le composé 9.
Et pour les autres sucres ?
Pour les autres, ça a créé pas mal de sous-produits indésirables. Pas idéal.
D'accord. Et la deuxième stratégie ?
La deuxième passait par une étape intermédiaire, un thioacétate, puis une oxydation. Et là, ça a mieux fonctionné.
Ah !
Oui, ça a permis d'obtenir les analogues sulfonatés voulus pour le maltose, le composé 7, le cellobiose, le 9 à nouveau, et le lactose, le 16.
Mais pas pour tous les sucres non plus.
Non, ça a échoué pour des sucres un peu plus complexes qu'ils ont testés aussi, comme le saccharose ou le maltotriose. Mais l'essentiel était là pour la comparaison.
Et ils ont aussi fait les versions sulfatées correspondantes ?
Oui, absolument. Les composés 23, maltose, 24, cellobiose et 25, lactose, ont été synthétisés pour avoir une comparaison directe, sulfonate contre sulfate, sur la même base sucre.
Parfait. Donc, les molécules sont prêtes. Passons au test biologique. Qu'est-ce que ça a donné sur l'activation de TL4 ? C'est un peu le cœur de l'étude, non ?
Exactement. Et là, premier résultat vraiment marquant. L'activité est incroyablement spécifique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, seuls les dérivés du cellobiose, que ce soit le sulfonate 9 ou le sulfate 24, ont montré une activation significative de TLR4 dans les cellules utilisées pour les tests.
Uniquement le cellobiose ?
Oui. Et le composé 9, le sulfonate, s'est même révélé particulièrement puissant, très actif.
Incroyable ! Donc si on change juste la liaison entre les sucres, comme dans le maltose ?
Ça ne marche pas. Ou très peu.
Ou si on change un des sucres, comme le galactose, dans le lactose.
Pareil, l'activité disparaît quasiment. Ça suggère vraiment que la structure spécifique du cellobiose, cette liaison bêta-1,4 entre deux glucoses, est absolument essentielle pour que la molécule soit reconnue et active TLR4.
C'est une vraie leçon de précision moléculaire, mon effet. Et pour l'autre cible, les paranases. Est-ce qu'on retrouve cette spécificité pour le cellobiose ?
Alors, pour l'inhibition de l'héparanase, les résultats sont plus nuancés, je dirais.
Ah, racontez-nous.
Si on regarde à nouveau les dérivés du cellobiose 9 et 24, Cette fois, c'est le dérivé sulfaté, le 24, qui est un meilleur inhibiteur que le sulfonate T9.
D'accord, l'inverse de ce qu'on voyait pour TLR4 en termes de puissance pour le 9.
Exactement. L'IC50, la concentration qui inhibe 50% de l'enzyme, est plus basse pour le 24, 56 mmO, que pour le 9, 184 mmO.
Et pour les autres sucres ? Maltose, lactose ?
Pour le maltose, c'est encore le dérivé sulfaté 23 qui est bien meilleur que le sulfonate T7. Une grosse différence même. Mais, surprise, pour le lactose, c'est l'inverse. Là, c'est le sulfonate T16 est un peu meilleur inhibiteur que le sulfate T25.
Donc, le remplacement sulfate-sulfonate n'a pas du tout le même effet selon le sucre de base, quand on regarde les paranases. C'est plus complexe.
C'est ça. L'impact de passer du sulfate au sulfonate dépend vraiment de l'architecture globale du sucre.
Alors, revenons sur le celluliose. Le composé 9, sulfonate, est super pour activer TLR4, mais moins bon pour inhiber les paranases que son cousin sulfaté 24. Comment on peut expliquer ça? Surtout si, comme vous le disiez, ils ont une structure de base identique.
Oui, et c'est là que ça devient encore plus intriguant. Les chercheurs ont utilisé la modélisation moléculaire pour regarder la forme 3D, la conformation la plus stable de ces deux molécules, 9 et 24.
Et alors? Elles sont différentes.
Eh bien non, justement. De manière assez surprenante, les calculs indiquent que leurs conformations préférentielles sont très similaires.
Ah bon? Donc la différence d'activité ne viendrait pas de la forme globale de la molécule?
C'est ce que ça suggère. Ce n'est probablement pas la posture de la molécule qui explique pourquoi l'une active mieux TLR4 et l'autre inhibe mieux les paranases.
Mais alors, qu'est-ce qui explique la différence?
L'hypothèse la plus probable, c'est que ça se joue au niveau des propriétés physico-chimiques intrinsèques des groupes sulfates et sulfonates eux-mêmes.
Cette petite différence d'un atome d'oxygène?
Oui, elle change subtilement la distribution des charges électroniques, l'acidité locale, peut-être la façon dont le groupe interagit avec l'eau ou avec des résidus spécifiques dans les sites de liaison des protéines TLR4 et paranases. Des détails fins mais cruciaux.
Fascinant. Et cette préférence marquée pour le celluliose dans les deux cas, même si les effets varient?
Ça s'explique sans doute par une ressemblance structurelle. Le motif du celluliose mime probablement une partie d'un motif trouvé dans les éparanes sulfates naturelles, un motif qui est reconnu par ces deux cibles, TLR4 et éparanase.
Comme si le celluliose était la bonne clé de base.
C'est une bonne image, oui. Et le groupe sulfate ou sulfonate serait la finition de la clé qui l'a fait mieux tourner dans une serrure TLR4 ou l'autre éparanase, ou qui la bloque différemment.
Bien compris. Alors si on devait résumer les points clés?
On a vu la synthèse réussie d'analogues de disaccharides, avec soit des groupes sulfates, soit des groupes sulfonates.
Oui.
Le résultat phare, c'est ce dérivé 6,6-disulfonate du méthylcellobioside, le composé 9.
Qui est un activateur très puissant et très spécifique de TLR4.
Exactement. Et pour l'inhibition de l'éparanase, on a vu que c'est plus variable. Les capacités d'inhibition dépendent à la fois du sucre de base et de la nature du groupe, sulfate ou sulfonate.
Donc la structure du sucre et le type de groupe chimique sont tous les deux déterminants.
Tout à fait. Ces travaux ouvrent des pistes intéressantes pour concevoir de nouveaux médicaments, des modulateurs de l'inflammation qui cibleraient TLR4 ou des inhibiteurs des paranases.
Le composé 9 semble particulièrement prometteur pour la piste TLR4.
Oui, c'est un candidat intrigant. Même si, bien sûr, il reste du travail pour comprendre son mécanisme d'action précis. Et surtout, les raisons de cette étonnante sélectivité pour le celluliose.
Et pour terminer, une petite réflexion pour nos auditeurs et auditrices. Si la forme 3D globale ne suffit pas à expliquer les différences d'activité, notamment entre les composés 9 et 24, quelles pourraient être ses propriétés chimiques, subtiles, vraiment propres au sulfate par rapport au sulfonate, qui seraient la clé de leur dialogue moléculaire si différent avec TLR4 et les paranases? Et surtout, comment pourrait-on exploiter ces nuances pour affiner, pour concevoir des médicaments encore plus ciblés à l'avenir?
C'est une excellente question et c'est tout l'enjeu de ces types de recherches fondamentales. Comprendre ces détails pour mieux concevoir demain.